Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point actualité largement consacré à la situation au Moyen-Orient, le ministre américain de la Défense a affirmé que cette journée constituerait le jour le plus intense de frappes sur l'Iran depuis le début de la guerre, tandis que les frappes se poursuivent un peu partout dans la région. L'Iran a averti que plus aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient jusqu'à nouvel ordre. Et en France, une opération d'envergure visant le gros criminel de la DZ Mafia est en cours dans le sud du pays. 42 personnes sont en garde à vue. Le ministre américain de la Défense a affirmé que cette journée constituerait le jour le plus intense de frappes sur l'Iran depuis le début de la guerre le 28 février. Et sur la situation au Liban, les frappes se poursuivent. Une nouvelle frappe israélienne a visé la banlieue sud de Beyrouth, le bastion du Hezbollah pro-iranien, selon l'Agence nationale d'information, après un appel à évacuer. Les présidents libanais Joseph Aoun et syrien Ahmed El-Sharaa sont convenus de mieux contrôler leurs frontières communes au lendemain d'un incident frontalier, selon la présidence à Beyrouth. Et le conflit se poursuit et s'étend dans toute la région. En Iran, une nouvelle série de frappes israéliennes a touché Téhéran, la capitale. Aux Émirats arabes unis, une raffinerie, l'une des plus grandes au monde, a suspendu sa production après une attaque de drones. Et le Qatar affirme que l'Iran poursuit ses attaques contre ses infrastructures civiles. Conséquence de la guerre, l'Iran avertit : plus aucune goutte de pétrole ne sortira du Moyen-Orient jusqu'à nouvel ordre. Le pétrole, un sujet dont nous reviendrons dans notre dossier du jour à suivre. Et enfin, en France, une opération d'envergure visant le gros criminel de la DZ Mafia est en cours dans le sud du pays. 42 personnes sont déjà en garde à vue, selon le parquet de Marseille. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier, la France va contribuer à la sécurité en mer Rouge avec 8 frégates, a annoncé Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Chypre. Chypre touchée par un drone peu après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. On écoute le président français.
La présence française qui se déploiera de la Méditerranée orientale en mer Rouge et justement au large d'Ormuz mobilisera 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies et notre porte-avions. Elle permet aussi de mobiliser et d'attirer avec elle la contribution de plusieurs autres pays européens et je veux saluer ceux qui d'ailleurs ont suivi notre porte-avions Charles de Gaulle depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Plusieurs collègues européens ont fait le choix de continuer à nous accompagner. Cette mobilisation de notre marine est inédite. Elle se fait évidemment avec la mobilisation aussi de nos forces aériennes et terrestres dans la région. Et elle manifeste la volonté de la France de contribuer à la désescalade, à la sécurité de nos ressortissants, à la sécurité de nos partenaires et à cette libre navigation et cette sûreté maritime à laquelle nous voulons, par ce biais, œuvrer.
Et vous venez d'écouter le président français Emmanuel Macron. Apporter donc un soutien aux alliés de la France dans la région et protéger les ressortissants français au Moyen-Orient. Avec nous, Marc-Aurel Barrez. Avec ce déploiement, Marc, quelle est la stratégie poursuivie par le président français ?
Montrer les muscles, voilà l'objectif du président français, d'après Cyril Bray, chercheur à l'Institut Montaigne. Premier dirigeant à se rendre à Chypre, prêt à déployer des moyens militaires en coordination avec plusieurs pays, dont l'Italie et l'Espagne, Emmanuel Macron tente, selon ce spécialiste, de conforter son rôle de leader de la défense européenne. Mais face au fait accompli de la guerre au Moyen-Orient, le chercheur affirme que la France possède peu de leviers pour peser sur ces évolutions. Pour l'instant, malgré les appels du président à la désescalade, ses conversations avec le président iranien, avec Donald Trump ou Benjamin Netanyahou sont restées sans effet. Il n'a par exemple pas pu non plus convaincre Israël de ne pas étendre le conflit au Liban.
Et cette implication française au Moyen-Orient comporte-t-elle des risques ?
Les autorités françaises assurent qu'il s'agit d'une posture strictement défensive, pas d'une participation directe au conflit. Au marin du porte-avions Charles de Gaulle, le président a lancé que la France était une puissance d'équilibre et de paix. Mais d'après Cyril Bray, l'engagement d'une flotte d'une telle ampleur pourrait faire de la France une cible encore plus importante. Il assure qu'un vrai risque est là.
Et la marine française s'est redéployée dans le Golfe. Quelles en sont les conséquences sur le plan militaire ?
Alors la France est l'une des deux flottes historiquement les plus puissantes d'Europe. Pourtant, le redéploiement français au Moyen-Orient, je le rappelle, hein, 8 frégates mobilisées plus le porte-avions Charles de Gaulle, fait peser une limite structurelle sur la force navale française, prévient une source militaire. Aux missions de surveillance des activités russes, aux activités de surveillance des espaces maritimes, notamment dans le Grand Nord, s'ajoutent désormais les répercussions sur le trafic maritime et la sécurité des États au Moyen-Orient. Avec le redéploiement naval français en Méditerranée orientale, dans le détroit d'Ormuz et dans la mer Rouge, pour un gradé de la marine française, on se met inévitablement dans le rouge. Selon lui, le format des 15 frégates que possède la marine est fait pour avoir une présence permanente en Atlantique, en Méditerranée, dans l'océan Indien, mais toute mission additionnelle demande donc de réorganiser l'ensemble du dispositif.
Merci Marc-Aurèle Barès pour toutes ces précisions. Second dossier, après une flambée, les prix du pétrole reculent légèrement suite aux déclarations de Donald Trump sur une guerre avec l'Iran qui serait quasiment finie. Mais derrière ce reflux, les fragilités sont toujours là. Le détroit d'Ormuz reste encore sous tension. Et pour comprendre ce qui relève du soulagement et ce qui pourrait encore faire basculer la situation, je vous laisse écouter Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS.
Nous ne sommes pas encore au moment où nous parlons, mais il faut être prudent dans l'expression. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas à l'avenir. Nous ne sommes pas encore dans le cas d'une crise d'insuffisance des approvisionnements pétroliers et ou gaziers mondiaux. Mais cela pourrait arriver, malheureusement. Nous sommes dans une phase où les fortes tensions que nous avons évoquées se traduisent par une très forte augmentation des prix du pétrole et du gaz cotés sur des marchés, Londres pour le Brent, New York pour le West Texas Intermediate américain, les Pays-Bas pour le prix du gaz TTF, donc les prix de gros du gaz en Europe, et bien sûr d'autres marchés, Singapour, Tokyo, etc. Donc la première manifestation de cette crise sur le plan énergétique, c'est la forte augmentation des prix, et c'est tout à fait normal, des prix cotés sur des marchés sont très réactifs. Il se passe quelque chose d'important au Moyen-Orient, les prix réagissent dans la minute qui suit ou dans l'heure qui suit, et pas plus. Pour ce qui concerne une éventuelle insuffisance de l'offre par rapport à la demande, on n'en est pas encore là aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, parce que cette crise est toute récente. Deuxièmement, parce que avant le blocage d'Ormuz par l'Iran, un certain nombre de navires pétroliers avaient été sortis du détroit d'Ormuz et sont en route vers les marchés de destination, principalement l'Asie, ensuite l'Europe et d'autres régions du monde. Il y a du pétrole et du gaz naturel liquéfié qui est en route parce qu'ils ont pu passer le détroit d'Ormuz et donc sortir du golfe arabo-persique avant le blocage. Un autre élément, c'est qu'avant cette guerre, le marché pétrolier mondial était excédentaire. L'offre était nettement supérieure à la demande et on prévoyait pour l'année 2026, sous réserve de tensions géopolitiques, et là on a été servi, si je puis dire, on prévoyait plutôt des prix du pétrole en baisse du fait du déséquilibre entre l'offre et la demande, mais déséquilibre au sens où l'offre était supérieure à la demande. Une grande partie de l'année 2025, le début 2026 et normalement toute l'année 2026. Donc nous avions quand même un certain coussin de sécurité, sauf que Ormuz étant bloqué, évidemment, si le blocage dure longtemps, et ma phrase commence par un si, nous pourrions basculer d'une crise qui se traduit par une forte hausse des prix du pétrole et du gaz à une crise des approvisionnements.
Vous venez d'écouter Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, au micro de Nadia Bencher. Dernier dossier en France, et il ne faut pas l'oublier, le premier tour des élections municipales aura lieu dimanche prochain. Une nouveauté a lieu lors de ce scrutin, la réforme dite PLM, Paris, Lyon, Marseille. Qu'est-ce qui change dans ces trois grandes métropoles ? Réponse avec Henri Vernet, journaliste et chroniqueur politique.
Eh bien, tout simplement, ces électeurs-là, ils vont voter deux fois. Une fois pour leur maire ou leur conseiller d'arrondissement ou de mairie d'arrondissement, et une fois pour la mairie centrale, donc dans ces trois villes, c'est-à-dire pour le Conseil de Paris en ce qui concerne la capitale. C'est une réforme toute récente, hein, elle date de l'été dernier, donc l'été 2025, et c'est la réforme, en effet, de la fameuse loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, qui elle-même avait été votée en 1982.
Pourquoi ce changement ?
Ben parce que c'est vrai qu'il paraît plus logique pour les électeurs. Pour quelle raison ? Ben parce que auparavant, avec une espèce de vote comme ça, qui était à deux échelons, c'est-à-dire que certes, les électeurs, les citoyens ne votaient qu'une seule fois, mais ils votaient pour les conseillers de leur arrondissement, qui eux-mêmes, tous les arrondissements réunis, votaient ensuite pour le ou la maire de Paris, Lyon et Marseille. Donc c'était en gros un scrutin indirect, vous savez, ça fait un peu penser au système des élections présidentielles américaines.
Ouais.
À tel point d'ailleurs que, comme aux États-Unis, alors évidemment, une échelle plus modeste, hein, soyons réalistes, mais il y a eu des cas à Paris où le nombre de suffrages directs, donc le nombre d'électeurs, était supérieur pour
Je crois que c'était le cas notamment pour Nathalie Kosciusko-Morizet, non,
oui,
qui avait obtenu plus de voix qu'Anne Hidalgo à l'époque, mais Anne Hidalgo avait remporté la mise.
C'est ça, au jeu de ce double scrutin, en tout cas de ce scrutin, disons, à deux tours en réalité, en effet, elle avait remporté la mise, mais c'était également le cas de son prédécesseur Delannoy, qui, Bertrand Delannoy, qui lui, alors c'était en 2002 pour son premier mandat, il avait obtenu moins de votes populaires, hein, comme on dit aux États-Unis, que son rival Philippe Séguin, mais pareil, au jeu des arrondissements, il avait été élu.
Vous venez d'écouter Henri Vernet, journaliste et chroniqueur politique, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.